Tu sais que j'ai fait une sieste mercredi. Ça m'a jamais arrivé, je fais jamais de sieste.
C'est très bien de faire des siestes, ça m'arrive rarement, mais en général, j'apprécie quand je prends une sieste.
Moi, j'aime pas du tout parce que quand je me réveille, je suis encore plus fatiguée, puis en plus je suis énervée parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Je me suis pas endormie volontairement, donc du coup, j'ai pas mis de réveil, tu vois. Et donc du coup, j'ai dormi 2 heures.
Ah
Donc j'ai
oui,
vraiment eu l'impression d'avoir
c'est pas une
perdu mon
sieste là,
temps.
c'est oui, c'est trop long pour une
Non.
sieste.
Ben oui, je sais pas ce qui s'est passé. Bref.
Bienvenue sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une thé de thé. Oh, pardon.
De thé. Il y a pas que moi qui suis fatiguée.
Servez-vous une tasse de thé, de café ou d'un expresso bien fort pour se réveiller. C'est ça dont
Ouais.
on a besoin. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial, puisqu'on parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité.
Et aujourd'hui, ça va être laborieux, mais on va y arriver.
Oh là là, mais tellement.
Parce qu'en plus, on est de retour pour un nouveau zapping à nouveau, puisqu'on
Oui.
a déjà vu plein de choses. Et puis, comme on vous avait promis au dernier épisode, on va essayer d'être régulière et exhaustive sur tout ce qu'on regarde. Donc, on a déjà plein de choses à raconter.
Tout à fait. Et je suis quand même très fière de nous parce que on a déjà quand même tenu le rythme. Voilà, le deuxième épisode est venu assez rapidement. On n'a
Ouais,
pas attendu
ouais.
6 mois, quoi, comme on fait d'habitude. Et donc, on va commencer avec les films vus au cinéma. Pas de films vus ensemble ce mois-ci. On a failli. Finalement, ça ne s'est pas fait. Peut-être pour mon plus grand bonheur, finalement. Marjo va nous le dire.
Bon, il y aurait pu peut-être avoir débat. Enfin, on vous laisse la surprise puisque c'est le dernier film dont on va parler. Mais avant, un film qu'on n'a pas vu ensemble mais qu'on a vu toutes les deux quand même, Ant-Man 3. Parce que d'ailleurs, je crois que tu l'avais vu genre le lendemain qu'on avait enregistré le dernier épisode. Moi, je l'ai vu un petit peu après. Donc Quantum Mania, un truc comme ça.
Quantum Mania, c'est ça.
C'est ça. Alors, je crois que toi, ça t'a bien plu.
Eh bah oui, bizarrement, alors que les critiques... Alors, c'est marrant parce que tout le monde dit les critiques sont mauvaises, mais j'ai quand même lu des bonnes critiques avant d'y aller, et je pense que c'est ça aussi qui m'a motivée. Et puis j'avais lu des critiques très négatives de personnes qui avaient adoré Doctor Strange, le dernier, donc je me suis dit, bon bah écoutez, hein, s'ils ont pas aimé Ant-Man, qu'ils ont aimé Doctor Strange, c'est parfait pour moi, on va y aller. Et ouais, moi en fait, j'ai passé vraiment un bon moment devant. J'ai trouvé qu'en fait, pour une fois, il y avait un scénario qui tenait à peu près la route, contrairement au dernier Marvel, où j'avais vraiment cette impression de remplissage et de scénario vide. Par exemple, j'ai adoré les Eternals parce que je trouvais que les personnages... Enfin, j'ai adoré, non. Restons mollo. J'ai bien aimé les Eternals parce que je trouvais que les personnages étaient hyper intéressants, mais je trouvais que l'histoire, c'était creux, je saurais même plus dire de quoi vraiment ça parlait, et je trouvais que ça juste introduisait les personnages. Là, il y avait quand même, effectivement, l'introduction du grand méchant Kang, et que j'ai trouvé qu'il était quand même très réussi, et je trouvais qu'il y avait quand même une histoire, même s'il y avait des trucs un peu bancals. J'étais quand même intéressée par le truc. Au niveau de l'esthétique, j'ai trouvé que c'était assez sympa. Alors pas non plus waouh, impressionnant. Je pense que ceux qui ont vu Avatar et qui passent après sur Quantum Mania, ils vont se dire ok, c'est un budget cheap. Et je l'entends tout à fait. Mais j'ai trouvé quand même que c'était assez original. J'ai vu quand même pas mal de petites vibes Star Wars. Ça m'a fait penser aussi à Strange World, qui est sorti sur Disney Plus récemment. Au niveau de cet univers un peu nouveau, un peu what the fuck. Et du coup, moi, j'ai passé vraiment un bon moment devant. Pas le film de l'année, mais j'ai trouvé que c'était ouais, très intéressant pour introduire Kang. Et j'ai trouvé ça plutôt cool.
Alors moi, c'était mon retour au cinéma pour voir du Marvel, puisque j'étais pas retournée voir du Marvel au cinéma depuis Doctor Strange. Et donc... J'avais pas de grandes attentes. Après, comme j'avais adoré l'introduction de Kang qui avait été faite dans Loki, voilà, je savais que ça allait être le méchant de ce film-là et j'avais quand même hâte de retrouver Kang, donc c'était un peu une de mes motivations. Après, voilà, j'avais bien aimé les précédents Ant-Man sans que ce soit non plus mes films Marvel préférés. Donc, ça a été à peu près, j'ai eu à peu près la réaction auquel je m'attendais, c'est-à-dire j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas été à fond non plus. Il y a des petits moments où quand même j'étais un petit peu, je me suis un petit peu ennuyée à certains moments. J'ai pas, enfin le problème en fait avec Ant-Man en général, c'est que j'accroche pas au personnage. En fait, j'arrive pas à m'intéresser à ce qui leur arrive et je les trouve pas charismatiques dans l'ensemble. Mais aucun, enfin je veux dire, Ant-Man en lui-même, il est sympathique, tu vois, il est marrant. Voilà, mais c'est sûr qu'il a pas et puis le problème c'est qu'ils appuient trop sur le fait qu'il a pas le charisme des autres héros et du coup ça encourage le fait de se dire bon bah il est sympa mais sans plus quoi. J'ai pas du tout accroché à sa fille. J'ai du mal avec la guêpe aussi. J'ai trouvé que c'est Michelle Pfeiffer, c'est ça, qui fait
la mère. Ouais,
autant je l'aime bien comme actrice, autant là j'ai eu vraiment du mal.
Ouais, moi c'est mon bémol dans le film.
Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui m'empêche de vraiment me mettre à fond dans le film. Visuellement, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs intéressants, comme tu disais. Je trouve que les designs, ils étaient originaux et assez. Enfin, c'est ce qui m'a le plus accroché quand même, c'est tout cet univers là. Mais en fait, ça reste trop en surface et il y a plein de bonnes idées. Et j'aimerais à chaque fois, j'étais genre ah oh, ça c'est cool, mais ça reste là en surface, ça va pas à fond quoi dans tout cet univers quantique là, alors qu'il y avait plein de bonnes idées. Et comme pour le coup là, par contre, ça a été vraiment une grosse déception. Bon, sans spoiler, il y a des scènes post-génériques et la deuxième scène post-générique, j'ai plus accroché en les 30 secondes de cette deuxième scène que dans les 2 heures de film, quoi. Et je pense que ça vient vraiment du style général du film et que voilà, je préfère un style à la Loki, voilà. donc voilà, j'ai trouvé que c'était un peu moyen. C'était pas mauvais, mais c'est moyen, voilà. mais j'ai pas détesté.
Je pense que j'ai tellement été déçue par les précédents Marvel que du coup, c'est arrivé un peu comme une bouffée d'air frais en mode « Oh, mais il est bien celui-là !» Hey, tu vois. Même si, comme tu dis, c'est pas le film de l'année, tu vois. Et effectivement, s'ils étaient sortis juste après Endgame, j'aurais sûrement dit comme toi qu'il était moyen. Mais je pense que mes attentes ont beaucoup baissé. Mais après, moi, j'aime bien Paul Rudd, j'aime bien Ant-Man, et j'aime beaucoup ce côté un peu, tu sais, rien que les petites blagues où ils le confondent avec d'autres super-héros dans le film. Enfin, moi, ça marche bien sur moi, ce genre de truc, tu vois, donc, voilà. Le deuxième film, on a un avis, mais alors, là, on est à peu près d'accord,
oui,
plus ou moins.
Pas gros débat, non?
Pas gros débat. Le prochain. Mais alors, le prochain.
Ouais, le prochain, on n'est pas tout à fait d'accord, puisque c'est Empire of Light de Sam Mendes. Alors, un film que j'avais... Enfin, donc j'ai appris l'existence pas longtemps avant qu'il sorte. Hein, j'ai vu une bande-annonce, je vois Olivia Colman, un film de Sam Mendes. Je vois, oh, mais c'est pour moi, ça. J'ai plutôt beaucoup apprécié les derniers films de Sam Mendes, donc c'est notamment 1917 et Skyfall, hein, pour les deux plus connus, on va dire. J'adore Olivia Colman, donc je me suis dit ça je pense que ça va me plaire, et effectivement ça m'a beaucoup plu. Alors, rien à voir dans le style avec ce qu'il avait fait là dernièrement, Sam Mendes. Là, c'est vraiment un film assez je sais pas si on peut dire contemplatif.
Si, totalement, oui, totalement.
Bon, ok, donc contemplatif, mais avec un sujet quand même assez assez dur, puisqu'on traite pas mal de santé mentale, et donc on suit une femme, donc incarnée par Olivia Colman, qui travaille dans un cinéma en bord de mer en Angleterre, et qui a on comprend au fur et à mesure qu'elle a un problème, je sais plus ce que c'est pas de la schizophrénie ou c'est de la... Non, je sais plus ce que c'est comme... Bref, c'est un problème mental voilà, qui affecte son quotidien, on va dire. Et il y a ce jeune homme qui vient de commencer à travailler au cinéma. Il y a un peu cette histoire d'amour entre deux aussi, qui est un peu le fil du film en même temps. Et ouais, j'ai trouvé ça très très beau. J'ai été très émue visuellement. Enfin voilà, c'est souvent le cas avec les films de Sam Mendes. La lumière, les couleurs, c'est très travaillé. Voilà, j'ai été émue et c'était ce genre de film que j'apprécie en général. Et là, à nouveau, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait pleurer, mais ça m'a fait du bien en même temps.
Tu vois, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi toi, tu n'as pas aimé les Banshees d'Inisherin. C'est pas normal.
Oui, mais il n'y a pas le côté absurde.
Il n'y a pas le côté absurde, mais
ça se trouve, les Banshees d'Inisherin, ça se trouve, si je le revoyais là,
peut-être que t'aimerais.
Ah, en fait, il était bien. Non, il y a des trucs, en fait, ouais, non, c'est plutôt il n'y avait pas du tout d'absurde là, dans Empire of Light, donc c'est plus terre à terre.
Il n'y avait pas d'absurde, mais moi, je suis désolée, cette histoire d'amour, pour moi, elle n'était pas du tout réaliste, quoi. Ah ouais, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils vont pas du tout ensemble. Et donc, j'arrivais pas à accrocher à, alors que moi, les histoires d'amour, voilà, c'est ma came, hein, clairement. On verra quand je vais parler de ce que j'ai vu sur Netflix récemment, mais voilà, c'est vraiment mon truc. Et là, pour moi, ça sentait pas naturel. Je comprenais pas ce qu'ils faisaient l'un avec l'autre. Je voyais plus une belle amitié où justement ils s'entraidaient, etc., qu'une histoire d'amour. Et je trouvais que c'était un peu comme un cheveu sous la soupe et j'ai pas aimé. Et donc moi, bon, voilà, je le dis, hein, j'ai pas du tout aimé ce film. Moi, j'en ai entendu parler parce qu'ils en ont fait beaucoup de pubs au Méliès à Montreuil depuis très longtemps. Donc je l'attendais depuis il y a plusieurs mois, depuis même 2022, je crois. Et ils avaient mis l'affiche, affichée dans le Méliès depuis très longtemps. Et j'avais beaucoup aimé de Sam Mendes 1917 récemment, mais aussi Les Noces Rebelles, American Beauty. Enfin, il y avait pas mal de films que j'avais bien aimé de lui. Il y avait que un film que je n'avais pas aimé auquel je me suis endormie devant au cinéma, c'est Skyfall. Ouais, je sais.
C'est le meilleur James Bond.
Oh non, pas du tout. Et donc, voilà, un deuxième film de Sam Mendes devant lequel je me suis endormie au cinéma, c'était Empire of Light. Je me suis vraiment mais endormie pendant au moins une demi-heure, Thibaut m'a dit, sur lui, pour son grand désespoir. J'ai trouvé ça vraiment, mais je me suis ennuyée en fait. Alors oui, c'était très beau, les images étaient très belles. D'ailleurs, j'avais voté pour lui, j'avais voté sur notre Discord, j'avais
oui,
dit ah,
on fait partie du jury des Oscars, vous saviez pas. Mais...
sur le Discord, on avait un peu voilà donné nos prédictions ou nos envies pour les Oscars et j'avais dit qu'effectivement, pour moi, lui, il méritait d'avoir le prix de la meilleure photographie. Ouais, il était sublime. Mais l'histoire, je la trouvais beaucoup trop lente, c'est beaucoup trop contemplatif pour moi. Et ouais, j'ai pas accroché à cette histoire d'amour que j'ai trouvée tirée par les cheveux. Et je sais pas, je trouvais qu'il se passait rien. Alors oui, c'était très beau, mais moi, ça me suffit plus, quoi. J'ai besoin d'un scénario, quoi. J'ai besoin de quelque chose. Et je sais que Tip s'est un peu ennuyé à côté de moi aussi. Alors lui, s'est pas endormi. Mais après, lui, les films tranches de vie, c'est pas du tout sa cam. Donc voilà, je savais que ça allait pas forcément lui plaire, mais il voulait. J'avais insisté pour qu'il vienne voir un film avec moi, et comme tous les autres films faisaient plus de 2 heures, il a choisi celui-là. Mais voilà, j'étais très déçue parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir dans ce film, et peut-être que si je le revois moins fatiguée, chez moi, avec un café, et avec une envie de contemplatif à ce moment-là, ça pourrait me plaire, mais sinon là, ça l'a pas fait.
Et je voulais juste ajouter, c'est vrai que parce que du coup, je l'ai beaucoup aimé. J'ai écouté des podcasts, regardé des interviews, tout ça. Et donc en fait, c'est un film. C'est pas autobiographique, mais c'est biographique sur la mère de Sam Mendes en fait, puisque le personnage principal du film, ça représente en fait sa mère qui avait les mêmes problèmes psychologiques, qui travaillait aussi dans un cinéma, qui est passé un peu par les mêmes soucis et du coup ça m'a encore donné plus de d'affection pour ce film en écoutant Sam Mendes en parler parce que et le choix aussi qu'il a fait de faire un film qui raconte ce qu'il a vécu dans son enfance mais sans se mettre lui, en fait, en mettant juste en avant sa mère. Et du coup, ouais, c'est... rien qu'en écoutant les interviews de lui, d'Olivia Colman, j'étais à nouveau émue. Donc oui, je pense que... Mais c'est parce que, voilà, c'est genre, encore une fois, c'est... Moi, les trucs tranches de vie, les portraits psychologiques et tout, j'aime bien, en général. Donc...
Mais moi, tu vois, le côté psychologique, je trouvais que ça, c'était... Alors, peut-être que c'est pendant la partie où j'ai dormi, hein, mais j'ai trouvé que c'était survolé, quoi. C'est pas vraiment approfondi, et... Mais tu vois, je préfère
une... C'est
peu une...
explicite, mais c'est très anglais, en fait, pour le coup. C'est très...
Oui, c'est être dans la pudeur. Voilà. Mais moi, dans ce moment-là, du coup, j'aime bien aussi des films où ça... pas forcément que ça montre, tu vois, que ce soit trop intimiste, trop... comment dire... Ah mince, je trouve plus mon mot. Voyeuriste, mais que ce soit un peu plus exploré, un peu plus exploité. Mais bon, je leur donnerai peut-être une chance plus tard. C'est comme les Banshees d'Inisherin, je me suis toujours dit que je lui donnerais une chance plus tard.
Autre film que tu as enfin vu, puisque moi j'avais pu le voir il y a un petit moment, mais donc que là tu as pu voir récemment, c'est qui est aussi autobiographique, mais là cette fois-ci le réalisateur s'est mis au centre du film, c'est The Fablemans de Steven Spielberg.
Oui, et là bon, je suis totalement d'accord avec toutes les critiques que j'ai vues. J'ai adoré ce film. J'ai vraiment, en fait, j'ai été captivée du début à la fin. J'avais l'impression de voir plein de films en un, puisque je trouve qu'il y a quand même un découpage avec des parties très différentes, que ce soit le début avec son enfance ou quand après il est au lycée. Enfin, je trouvais que c'était très très découpé, qu'on avait l'impression de voir plusieurs films en un, et du coup j'ai pas perdu de rythme entre guillemets, et j'ai aucun moment, parce qu'il est quand même très long, faut avouer ce qu'il y a, mais je me suis pas du tout ennuyée à aucun moment. J'ai trouvé captivant, mais alors captivant, tous les passages où il fait du montage, où il filme.
Oui.
J'étais vraiment...
Toi aussi, t'étais fascinée par sa table de montage.
Ah oui,
mais c'est
totalement
quoi, cette machine, c'est génial.
Mais j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais là, waouh. Je trouvais ça génial. Les acteurs, on joue superbement bien. La BO est incroyable, et c'est dommage qu'elle ait pas remporté de prix, mais bon, la BO de Babylone non plus aussi était incroyable, et n'a pas remporté de prix. Non, vraiment, ça a été je vais pas m'étendre plus parce que sinon on va jamais arriver à la fin de notre liste, mais j'ai trouvé que ce film était sublime, que c'est un des chefs-d'œuvre de cette année, et j'espère qu'il va bien marcher en France, puisque aux États-Unis, je crois que c'est pas été trop le cas.
Ouais, c'est dommage. Enfin,
et ouais.
Ça me fait vraiment de la peine que ce genre de film, ne marche pas au cinéma, parce que c'est quand même des grands films, ça peut plaire à tout le monde, enfin c'est pas des films, alors certes c'est pas du blockbuster en tant que tel, mais c'est quand même des films accessibles, enfin c'est ça moi que j'ai vachement aimé dans The Fablemans, c'est que ça rend je trouve ça fait comprendre la passion pour le cinéma, mais d'une manière très accessible entre guillemets, enfin je sais pas trop comment le dire autrement, mais c'est, enfin on peut totalement se mettre dans la peau de du héros en fait, et il y a plein de scènes que j'ai trouvé vraiment vraiment marquantes, mais bon, comme on reste sans spoiler dans cet épisode,
oui,
on va pas en parler en détail, mais ouais j'ai beaucoup aimé, enfin je l'avais déjà dit que j'avais beaucoup aimé, mais je suis contente que ça t'ait plu aussi, donc ouais, j'étais même à deux doigts de retourner le voir, mais bon, il y avait plein d'autres choses à voir, donc je suis pas retournée. Mais j'étais vraiment à chaque fois que je disais bon, alors qu'est-ce que je vais voir ? Je vais oh, il y a cette femme ça. Bon, quand même, faut que j'aille voir un autre film. Mais j'étais vraiment très tentée. Et s'il y avait pas eu autant d'autres sorties, je serais peut-être allée le voir une deuxième fois, probablement.
Je comprends. Moi, ma seule petite déception, c'est que je l'ai vu en VF parce que le Méliès est en grève et au niveau des séances et de mes dispos, il y avait qu'une VF possible. Après, la VF était très bien. Je n'ai pas de déception là-dessus, mais c'est vrai que moi, j'ai quand même une petite préférence pour la VO, surtout au niveau des jeux des acteurs. Je trouve c'est leur vrai jeu, entre guillemets. On les voit, eux, à 100%, même si le doublage est souvent très bien fait. Donc, j'aimerais bien le revoir une fois en VO.
Alors, film que j'ai vu en VF pour la bonne et simple raison que c'est un film français. L'astronaute. Alors, un film que vous n'avez probablement pas entendu parler parce que il a été très peu distribué. Moi, pour aller le voir, il a fallu que j'aille, que je sois à Paris, que j'aille au Forum des Halles, que c'était le seul cinéma où, qui le passait. C'est dommage parce que encore une fois, je pense que c'est un film qui aurait mérité d'être un peu plus mis en avant. Alors, L'Astronaute, c'est un film de Nicolas Giraud. Et avec Nicolas Giraud et Mathieu Kassovitz, notamment dans un second rôle très très chouette. Et ça raconte l'histoire d'un ingénieur qui travaille pour l'ESA, donc pour comment c'est, je sais plus c'est quoi l'acronyme de l'ESA, bref, l'équivalent européen de la NASA. Et son rêve, c'est de construire lui-même dans son tout seul sa fusée pour pouvoir partir dans l'espace et faire le premier vol habité amateur, voilà. Et donc c'est un peu un scénario un peu hollywoodien, quoi, d'un gars tout seul dans son garage qui construit sa fusée, qui a un rêve complètement fou et puis qui rassemble autour de lui une équipe un peu improbable, où il a un ami qui est chimiste amateur qui crée un carburant qui permet de propulser la fusée. Il va chercher un ancien astronaute, donc c'est Mathieu Kassovitz, qui va lui donner des conseils. Il trouve quelqu'un pour une étudiante en mathématiques qui va lui faire ses calculs. Enfin bref, c'est vraiment le scénario un peu à l'américaine, quoi, mais dans un style 100% film français, hyper terre à terre et hyper réaliste. Donc rien de glamour dans le film, et avec un côté assez contemplatif aussi, même s'il y a derrière, comme il y a tout ce suspense de est-ce qu'ils vont y arriver ou pas, il y a quand même ça joue quand même, hein, sur un suspense qui tient jusqu'à la fin. C'est vraiment original, quoi, comme film. J'étais à la fois pris par l'histoire, les personnages sont assez intéressants. Voilà, c'est pas le film de l'année, c'est pas celui que j'ai préféré ce mois-ci, mais ouais, je suis contente de l'avoir vu, et la fin est touchante, donc L'Astronaute, si jamais un jour vous avez l'occasion de le voir, et ben je conseille.
Ouais, j'en ai jamais entendu parler quasiment.
Ben moi j'ai tombé dessus parce que ils en parlaient à France Inter, une émission de cinéma sur laquelle je tombe de temps en temps quand je prends la voiture le samedi, parce que c'est une émission du samedi, ou le dimanche, je sais plus, enfin bref. Et ils avaient Mathieu Kassovitz qui était invité et qui parlait du film, et du coup, ça m'avait donné envie, et ouais.
Ouais, il a l'air cool.
Ouais. Franchement, c'est sympa. Et on apprend plein de choses sur comment on construit des fusées.
Trop bien. Le dernier film, c'est celui qu'on aurait dû aller voir ensemble, et alors par la force des choses et de mon état de fatigue, on n'a pas pu le voir ensemble, et c'est trop marrant parce que du coup Marjo y a été de son côté, et je ne savais pas qu'elle y allait, et je lui ai envoyé une critique que j'ai lue en disant « Oh là là, t'as vu cette critique, heureusement qu'on n'y est pas allé », et Marjo m'envoie « Je sors du cinéma, je te laisse la mienne !» Alors je te laisse expliquer.
Donc je suis allée voir The Whale, le lendemain ou surlendemain des Oscars, qui a récompensé donc Brendan Fraser pour son rôle dans ce film, donc film de Darren Aronofsky. Alors l'histoire, vous en avez sûrement entendu parler, hein, avec les Oscars, etc. Mais c'est l'histoire donc d'un homme qui est atteint d'obésité morbide, qui est très 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 gros, plus de il donne pas son poids, mais en gros il s'est transformé en whale, quoi, en baleine, on va dire. Mais c'est un problème mental, en fait, on peut dire qu'il tente de se suicider en mangeant. C'est un peu ça, en fait. Et donc on a je spoil un peu, mais la fin de vie de cet homme-là, sa dernière semaine, en fait, comment il vit, ou comment il survit dans cet état, et on comprend au fur et à mesure pourquoi, et avec aussi son entourage, du coup, parce que c'est un peu un huis clos, tout se passe dans son appartement, et c'est les gens, des personnes qui viennent le voir, et donc à travers, voilà, les relations avec les personnes les échanges avec les personnes qui viennent le voir, on comprend un peu sa vie et ce qui lui arrive, etc. Alors le film le film a, en fait, quand tu disais tout à l'heure, tu sais, sur le côté psychologique par rapport à Empire of Light, là, c'est beaucoup plus bavard qu'Empire of Light, donc ça parle beaucoup. Les dialogues sont larmoyants, parfois pas si mal. Enfin, c'est non, franchement, c'est pas si mal écrit que ça. Mais la mise en scène est vraiment problématique parce que ce personnage principal, moi, j'y allais en mode, je vais m'attacher à ce personnage-là. Brendan Fraser est hyper émouvant. Je vais être émue et je vais comprendre cet homme-là et voilà. Et en fait, tout est fait pour que ce soit vraiment malaisant et voyeuriste. Là, tu disais tout à l'heure, c'est exactement ça là pour The Whale. En fait, on est confronté on est mis dans une position vraiment voyeuriste qui rabaisse vraiment cet homme excessivement gros et toutes les et l'état dans lequel il se met, et du coup toute l'écriture autour de voilà, il s'inflige ça à lui-même parce qu'il va mal et voilà, il est en train de mourir et en même temps il essaye de réparer sa relation notamment avec sa fille mais un peu en mode c'est trop tard de toute façon, enfin bref, c'est compliqué parce que et la critique donc que tu m'avais envoyée c'était donc c'est du gras politique, c'est ça, hein, c'est le gras politique,
c'est ça, ouais. Ça.
Dénonce du coup que c'est un film grossophobe et effectivement ils avancent des bons arguments et qui mettaient un peu des mots sur ce qui m'avait mis mal à l'aise, et aussi pour moi c'était pas normal que devant un film comme ça, moi je ne pleure quasiment pas, j'ai eu une micro larme à la fin. Mais je suis restée très très distante et je me dis mais c'est pas normal que je sois distante face à ce type d'histoire, face à ce type de d'interprétation, parce que Brendan Fraser fait un super travail. Et c'est à cause de la mise en scène, c'est à cause de la manière dont on nous place face à cette histoire et sur le coup j'étais mal à l'aise, et plus j'y pense plus je suis plus en colère que mal à l'aise par rapport à effectivement le message que ça porte et ouais, du coup je ne conseille pas The Whale, et je suis presque je suis contente que Brendan Fraser ait eu un Oscar pour son parcours, pour ce que ça veut dire pour son parcours, etc. Mais ça me met presque mal à l'aise que ce soit pour ce rôle-là, et aussi comment on utilise son parcours tragique et du coup le parcours tragique
pour encenser le film.
Et ouais, et le parcours tragique du personnage qu'il incarne, comment on utilise ça, ça me met de plus en plus mal à l'aise, et ouais, je reste avec beaucoup de réserves sur ce film.
Ouais, bah moi je suis du coup assez contente de ne pas l'avoir vu, parce que je pense que ça m'aurait pas plu, et énervée aussi un petit peu. Et comme tu dis, oui, c'est dommage d'un certain côté qu'effectivement il ait ce prix pour ce film-là. Après, s'il l'avait pas eu, ça aurait été Everything Everywhere qui aurait dû l'avoir, j'imagine. Donc c'est bien, ça fait un petit changement.
Oui, non, c'est sûr. Mais ouais, c'est dommage, parce que il y a des moments où il y a un message, parce qu'il y a un espèce de jeu de parallèle avec Moby Dick, en fait. Il répète tout le temps une analyse de Moby Dick et tout, et le parallèle avec sa propre vie et tout, qui était intéressante. Et en fait, quand j'ai fini par comprendre, enfin, parce qu'il le répète beaucoup, qu'est-ce qu'il y a derrière, j'étais genre... c'est dommage, c'est dommage. Donc, ouais. Bon, c'est tout ce qu'on a vu au cinéma ce mois-ci. Mais on a vu plein d'autres films, plus anciens, plus ou moins anciens d'ailleurs, puisqu'on a rattrapé pas mal de pas perdus.
Ouais, et le premier pas perdu que tu as vu...
Ah, je vais te proposer de commencer pour me faire une petite pause après tous les films dont j'ai parlé.
Ok, bah c'est parti. Alors je vais commencer par un film, je me suis trompée en fait sur notre petit doc de préparation, j'ai noté que c'était sur Netflix, mais en fait je ne crois pas qu'il y soit, il s'agit de Nope, qui est un film de science-fiction de Jordan Peele, et il me semble qu'en fait c'est Get Out de Jordan Peele qui est sur Netflix. Ah. Alors donc c'est un film qui est sorti en 2022, donc je pense que c'est pour ça qu'il est passé sur Netflix, je suis bête, c'est malin. Donc comme on a, peut-être que les Belges vous l'avez, comme vous avez le premier de Jordan Peele. Alors c'est une histoire assez particulière, c'est on est dans une ferme, on a un frère et une sœur qui travaillent ensemble à s'occuper de chevaux et voilà, donc ils ont une écurie dans une ferme, enfin rien de particulier, et leur père meurt au tout début, c'est pas vraiment un spoil hein, c'est vraiment dans les 5 premières minutes, tué par un objet métallique qui tombe du ciel et ils savent pas trop d'où ça vient, puis il y a plein d'autres objets métalliques qui sont tombés du ciel, et pendant longtemps on dans le film on comprend pas le rapport avec le reste, il y a des choses bizarres qui se produisent, des chevaux qui disparaissent, et en fait voilà, ils vont découvrir qu'il y a une espèce de force mystérieuse, un peu meurtrière, qui vient du ciel.
Donc c'est un film. J'avais vu la bande-annonce, elle m'avait terrifiée, la bande-annonce.
Oh, ça fait un peu peur, ouais. Ils appellent ça un science-fiction horrifique, voilà. Mm. Mais ça fait pas peur dans le sens où il y a pas de jumpscare du tout. Mais c'est un peu angoissant, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas pourquoi. Et puis moi, je n'avais pas lu que c'était un science-fiction, donc je m'attendais vraiment à un truc réel. Du coup, je comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé hyper intéressant. Il y a toute une partie, parce qu'on a des espèces de flashbacks. Il y a toute une partie de flashbacks que je comprenais pas trop le rapport. Et c'est Thibaut qui m'a expliqué. Il m'a dit, il l'avait vu avec ses cousins. Et bon, je veux pas spoiler. Donc ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas compris ou qui veulent en discuter, venez sur le Discord. C'est avec plaisir qu'on en parlera. Mais il y avait toute une partie que je comprenais pas. Et Thib et ses cousins ont eu une interprétation que j'ai trouvée très juste, et donc ça m'a encore plus fait apprécier le film. Je me suis dit ah mais oui, et en fait ouais, je peux pas en dire plus parce que vraiment sinon ça spoil tout l'intérêt du film quoi, mais je l'ai trouvé très sympa. J'ai passé c'est bizarre de dire un bon moment alors que j'étais terrifiée, mais mais ouais, on est accroché je trouve voilà à l'histoire, et c'est cool. Et Tib m'a dit que Get Out était encore mieux. Donc j'ai hâte de le voir là sur Netflix, il est dans ma liste, il faut vraiment que je le regarde parce que je pense que ça va me plaire aussi du coup. En tout cas voilà, si vous avez l'occasion de le voir soit sur le Netflix belge ou soit en VOD ou en téléchargement, mais faut pas le dire, n'hésitez pas.
Ouais, j'ai pas encore osé regarder Get Out, mais je sais que j'en avais énormément entendu parler. J'essaie de me donner du courage pour le voir, mais Nope à mon avis c'est un peu, enfin je pense que Get Out est plus violent je crois que Nope, mais
je sais pas, moi on m'a dit que c'était il me semble, je vais pas dire de bêtises, que Get Out c'est pas science-fiction,
non.
C'est plus ancré dans le réel,
enfin mais ça tourne quand même, enfin c'est twisté quand
oui
même,
c'est un ouais. Ouais mais en fait les deux étaient dans mon avion quand je suis partie au Vietnam, donc comme je savais Get Out était sur Netflix, je me suis dit tiens je vais regarder Nope. Mais voilà, mais mes autres pains perdus aussi hein, j'ai tout regardé dans l'avion.
T'as regardé un film d'horreur dans l'avion, ça j'avoue que j'oserais pas le faire.
Oh bah tu sais, je suis tellement terrorisée de l'avion que au moins
oui,
ça me pense à penser à autre chose.
Alors moi j'ai rattrapé des films sur OCS puisque OCS a l'avantage d'avoir des films récents dans le catalogue, et j'ai pu regarder un film que j'avais complètement loupé, j'avais même pas vu qu'il était sorti au cinéma. Pourtant, j'ai vu le premier au cinéma, j'avais bien aimé. Donc j'ai regardé la suite, c'est La Revanche des crevettes pailletées. Donc je sais pas si tu avais vu le premier.
J'ai adoré le premier.
Ah !
Le premier, je l'avais vu pendant le confinement quand on avait Canal+ gratuit. Il était passé à ce moment-là et j'avais beaucoup beaucoup aimé, et je voulais aller voir le 2, et bon, manque de temps et tout, ouais. J'y ai pas été.
Et bah du coup, bah effectivement le 2 est sorti l'année dernière je crois, et donc je l'ai vu. Alors par rapport au premier, donc pour ceux qui connaissent pas les crevettes pailletées, c'est une équipe de water polo composé entièrement d'hommes gays, et le pitch du premier film c'est que ils se lancent dans un road trip pour aller aux Gay Games, et surtout le moteur de l'intrigue c'est qu'ils se retrouvent avec un entraîneur qui est un joueur de water polo de haut niveau et qui est puni pour avoir eu des propos homophobes à la télé, je crois, un truc comme ça. Et du coup comme punition, il est obligé d'aller entraîner cette équipe donc d'hommes gays pour aller aux Gay Games. Et alors c'est des films qui sont à la fois très très drôle. Enfin, vraiment, c'est il y a beaucoup beaucoup d'humour et en même temps, bah voilà, ça traite de l'homosexualité, des préjugés, de voilà, de plein de choses comme ça. On découvre l'ambiance complètement dingue des Gay Games aussi. Bref, c'est très fun. Et donc le deuxième, alors c'est à nouveau, voilà, ils doivent aller aux Gay Games à Tokyo. Et en fait, pour une un enchaînement d'événements font qu'ils se retrouvent en Russie et qu'ils doivent survivre du coup à toute une série d'aventures rocambolesques en Russie. Donc il y a quasiment, il y a plus de water polo hein, dans celui-là. C'est toujours une équipe de water polo qui essaie d'aller à une compétition, mais il y a plus du tout, plus, enfin ça devient complètement secondaire. Et par contre, c'est un enchaînement d'aventures, voilà, dans la Russie hyper homophobe, voilà, de Poutine. Et donc on a, c'est un peu plus politique, on va dire, par le fait peut-être que ça se passe en Russie et voilà. D'ailleurs, ça a été tourné en Ukraine avant la guerre, ah. Voilà. Donc petit clin d'œil, mais du coup c'est, moi j'ai trouvé toujours très drôle. Très émouvant aussi, voilà, il y a des passages comme le premier, hein, mais qui sont très émouvants. Toute la galerie de personnages sont toujours autant aussi attachants, avec un petit nouveau qui se retrouve dans l'équipe, mais je veux pas vous spoiler si vous voulez le voir. Donc voilà, je conseille pour ceux qui connaissent pas les crevettes pailletées de regarder les deux, et pour ceux qui ont vu le premier, bah allez voir le deuxième, il est dans la même veine.
Je vais aller voir ça sur OCS. Moi, le prochain film était également un film que j'ai vu dans l'avion, dont j'avais pas du tout entendu parler, c'est marrant. Il s'agit de The Queen, qui est un film britannique qui est sorti en 2006, donc c'est vrai que ça date quand même pas mal.
Ouais, avec Hélène Mirren, oui, qui faisait Elisabeth,
ouais, c'est ça. C'est ça, mais ouais, je pense que 2006, on avait quoi? On avait 16 ans, oui, donc je regardais beaucoup moins de films... Non, pas du tout. Si, on avait 16 ans. Si, c'est ça. Donc oui, je regardais moins de films, puis encore moins les films sur la royauté, ça m'intéressait pas spécialement. Alors en fait, ça raconte juste après la mort de Diana, les jours et semaines qui sont passés juste après, lorsque Elisabeth II ne voulait pas réagir, et que le Premier ministre Tony Blair, lui, essayait de lui faire comprendre que, vu que le peuple adore Diana, il fallait qu'elle montre de la compassion et qu'elle fasse, même si elle n'était plus princesse, enfin plus sa belle-fille, il fallait qu'elle fasse quand même des obsèques d'un caractère national, officiel, et ce que la reine refusait. Et donc on a ce débat, cette relation entre Tony Blair et Elisabeth II, qui ont suivi voilà pendant les semaines. On voit un tout petit peu les enfants, mais vraiment pas trop. C'est vraiment concentré sur ces deux personnages-là. Et Tony Blair, qui est interprété par Michael Sheen, que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et en fait, j'ai vraiment pas mal aimé. Et ce qui est marrant, c'est qu'à des moments du film, je me suis dit, oh là là, ça montre quand même une image très négative de la reine. Et puis à des moments, je me suis dit, oh là là, ils sont vraiment trop gentils avec la reine. Ils essayent de nous la brosser dans le sens du poil. Et puis à la fin, du coup, je me suis dit, mais alors attends, s'il y a des moments où il te la dépeint négativement et d'autres où tu prends pitié pour elle, en fait, il reste quand même assez juste ce film. Et du coup, c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, j'ai l'impression qu'il prenait pas spécialement parti, à part montrer une très bonne image de Tony Blair. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé ça hyper hyper intéressant. Et en fait, même si le scénario paraît très simple, j'ai quand même été captivée. Je trouve que c'est bien écrit. Tu te mets à la place effectivement de la reine qui a l'impression que Diana a trashé sa famille et a vraiment. D'un côté, tu te dis, bah oui, ça doit être dur pour elle quand tu vois tout le peuple qui prend parti pour Diana. Et puis de l'autre côté, tu te dis, bon, est-ce que toi non plus, t'as peut-être pas si bien réagi que ça avec elle. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé.
Tu regardes The Crown, toi? Je sais plus si tu regardes.
Non, je dois, mais en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait déjà trop de saisons.
Ouais, c'est dur de s'y remettre.
C'est dur de s'y remettre, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que je vais regarder parce que c'est vraiment, mais totalement, mon genre de série. Je sais que je vais adorer.
Mmh. Ouais, donc, du coup, parce que j'ai pas vu The Queen, mais forcément, par rapport à The Crown, comment. Bah après on y est pas encore tout à fait là dans The Crown à ce moment-là, mais on s'y rapproche. Ouh. Et mais là je regarde un peu le casting, ça me donne envie. Il y a Hélène McCrory qui fait Chili Blair.
Ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, effectivement. Non, ouais, vraiment sympa. Et c'est pour ça, l'avion, c'est pas mal pour, découvrir des films. Mais parce qu'il est sur aucune plateforme, j'ai regardé. Mm-hmm. Donc, c'est dommage. Pourtant, c'est un vieux film, hein, s'il pourrait.
Oui, bah, ce genre de film qui pourrait arriver. Je sais pas dans quel catalogue il est, de quel diffuseur il dépend. Mais... Bon, par contre, c'est typiquement le film que vous trouvez très facilement dans les médiathèques, hein, je pense.
Oui,
je
pense aussi. Voilà.
Alors, moi, j'ai vu un film dont peut-être que vous avez un petit peu entendu parler ces derniers jours, peut-être juste un tout petit peu. Un film qui a, qui a reçu quelques Oscars, là, dernièrement, mais vraiment juste quelques-uns. Hein. Donc oui, j'ai enfin vu Everything Everywhere All At Once, qui est arrivé sur OCS récemment. Qui est arrivé sur OCS tout récemment, juste avant les Oscars. Donc, j'ai pu le voir avant les Oscars pour me faire un avis, puisque c'était mon gros pain perdu hein, de l'année dernière. Si vous avez écouté nos Popcorn d'or, hein, c'était mon gros regret de pas l'avoir vu au cinéma. Donc, je l'ai vu en étant méga hypée. même avec la hype, j'avais réussi à pas trop me spoiler. Je savais juste que ça parlait un peu de multivers, tout ça, mais je savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Et du coup, j'étais surprise malgré ma hype et malgré tout ça, je m'attendais pas à un film aussi foutraque, aussi qui part dans tous les sens. Est-ce que j'ai passé un beau moment? Je suis pas sûre. Non, en vrai, si. Il y a des moments où j'étais vraiment morte de rire. Il y a des scènes que j'ai vraiment beaucoup aimées. D'autres où j'étais genre non mais là c'est trop pour moi, c'est trop pour mon cerveau. Moi j'aime bien, comme on dit, on a acté hein, que moi j'aime bien les films qui prennent leur temps, les films contemplatifs, les films où je peux tout digérer chaque minute et on me laisse après une minute pour le digérer. Là non, c'est pas possible. Donc du coup c'était vraiment épuisant en fait. J'ai fini le film, j'étais épuisée. Donc pour ça voilà, c'est pas mon genre de film préféré, mais après c'est quand même une expérience assez folle et je rejoins ce que tu disais quand tu avais fait ton retour sur le film. On n'en voit pas des films comme ça, c'est unique et rien que pour ça j'admire ce qu'ils ont fait et je suis contente que ça reçoive autant d'attention et autant de succès. Pour moi, c'est un peu trop et c'est surtout au détriment de l'histoire du fond qui est quand même censée être émouvante. Et moi, j'ai quand même pleuré à une scène à la fin. Mais, mais du coup, je suis quand même, c'est un peu trop pour moi pour digérer tout le fond, qui est très simple au final, hein, mais ouais.
Ouais, mais pour moi, tu vois, c'est pas un film justement où on doit être forcément dans l'émotion, tu vois. C'est un film où tu dois être en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça du début à la fin. Alors oui, il y a un message derrière qui est quand même profond et il y a des passages, moi aussi j'ai versé ma larme à la fin. Mm. Mais tu vois, pour moi, c'est pas juste un film comme The Whale devrait l'être, dans l'émotion. Là, c'est vraiment un film où pour moi qui a été réalisé dans le sens où il faut que tu en aies plus quand tu en prennes plein la tête, que tu te dises mais où est-ce que je suis ? Tu vois que typiquement sans spoiler, la scène des pierres, tu dois te dire mais quoi ?
C'est ma scène préférée.
Elle est géniale, mais après moi il y a des scènes où c'est pas passé, genre les doigts saucisses, ça m'a fait pas rire, j'étais là bon OK.
Non, et ça mais à chaque fois que je revenais là-dessus, je me disais mais
oui, encore, j'en peux plus arrêter avec ça.
Et tout c'est comme il y a tellement de trucs différents, il y a forcément des passages qui nous plaisent parce
bien
que
sûr.
il y a tous les styles possibles imaginables dans ce film. Et
mais c'est fait exprès, c'est ça qui est génial.
Ouais, donc c'est cool, mais c'est une expérience et faut pas être trop fatigué hein, pour voir ce film. Là, c'est pas le risque de s'endormir, c'est le risque de péter comprendre. Un câble.
Mais au moins, t'es sûr que tu t'endors pas.
c'est sûr.
Je reviens juste sur The Queen, j'ai fait ma recherche parce que je me suis dit quand même 2006, pourquoi est-ce qu'il est racheté nulle part? En fait, il fait partie des studios Miramax, enfin de la société de production Miramax, qui a été acheté par Disney en 93, mais revendu en 2010. Et du coup, ensuite, le film a été acheté par Bein Media Group. Et en fait, Par contre, il y a beaucoup de films, dont un dont tu vas parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de films, notamment de Quentin Tarantino, qui sont de Miramax, donc et qui sont sur Netflix. Donc peut-être qu'un jour, The Queen arrivera sur Netflix. Ouais, voilà, tout ça pour ça.
Tarantino, il y en a sur Netflix, il y en a sur Prime. Enfin, tout n'est pas...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et non, mais tout n'est pas disponible, puisque genre Kill Bill, il est disponible nulle part. Mais bon, ah, ça, oui, encore une fois, c'est des trucs qu'on trouve en médiathèque, donc je m'en fais pas trop, mais...
Alors, je continue mes pains perdus et films vus dans l'avion, et je suis hyper contente d'avoir vu ce film parce que j'étais dégoûtée de l'avoir raté au cinéma, et je suis dégoûtée du coup de ne pas l'avoir vu au cinéma, et il s'agit de Bullet Train.
Avec Brad Pitt, c'est ça ?
Mais oui, avec Brad Pitt ! Franchement, ce film, mais ça a été un coup de cœur, et j'ai qu'une hâte, c'est qu'il sorte sur une plateforme pour le revoir, parce que j'ai adoré. Et ce qui est trop marrant, c'est que Thibaut était à côté de moi et on l'a regardé ensemble. Il a adoré aussi. On l'a conseillé à nos potes, donc pour le retour du Vietnam, qui l'ont regardé, qui ont adoré. Vraiment, tout le monde, il a fait l'unanimité. Et ce film était génial. J'ai rigolé comme pas possible. Je pense que mes voisins dans l'avion, ils ont dû me regarder bizarrement. Mais vraiment, j'ai ri. C'était captivant. Il y avait un scénario, ça te tenait en haleine. C'est super bien joué. C'est, en fait, tu te retrouves. C'est un peu un huis clos dans un train. Du coup, au Japon, qui c'est un train qui relie Tokyo et Kyoto. Et en fait, t'as plein de personnages, et chacun sont là pour une raison différente, même si quasiment toutes sont liées. Et du coup, tu suis tous ces personnages, et tu comprends au fur et à mesure ce qu'ils font là, et ce qu'ils veulent, et c'est vraiment super, parce que chaque personnage apporte quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup d'humour, il y a de l'action, mais l'action est bien faite, il y a une super fin, enfin vraiment... Et je me suis dit, mais je suis dégoûtée de pas l'avoir vu au cinéma, parce que sur grand écran, ça devait être encore encore mieux, quoi.
Bah du coup, je suis contente d'avoir ton retour, parce que je m'attendais pas trop à ça. Moi, quand j'avais vu sortir ce film, j'étais en mode, bon, ça doit être un peu un... Enfin, je m'attendais que ce soit un peu nanardesque, en fait, que ce soit...
Ah, pas du tout.
Mais non, du coup, non, ça me donne envie, parce que mine de rien, même la bande-annonce, je dis genre... Bon, ça n'a pas l'air de voler très haut, mais ça a l'air d'être sympa quand même, tu vois. Mais non, du coup, ça me donne plus envie que...
Et je voulais juste lire un dans Wikipédia, ils ont fait le résumé, et en fait ils ont un peu des noms de code, tu vois, les personnages, et du coup les résumés sont hyper drôles. C'est: pensant qu'il y a un diesel dans le train, Citron et Mandarine se séparent pour le trouver, Coccinelle est retrouvée par Mandarine, les deux se battent afin de trouver un compromis. Mais en fait, tu vois, c'est un peu ça le film, tu vois, il y a de l'absurde, et en même temps tu suis, même s'il y a tous ces surnoms.
Coccinelle, c'est Brad Pitt.
Coccinelle, c'est Brad.
Oui, je vois le casting, je vois Ladybug, Brad Pitt.
Oui, oui, Coccinelle, c'est Brad Pitt. Alors, ils expliquent pourquoi, hein, dès le début, pourquoi il s'appelle comme ça. Mais faut pas trop regarder dans le casting parce que ça spoil un ou deux trucs au niveau des noms. Bon, tu auras oublié d'ici à ce que tu le vois. Mais voilà, en tout cas, le duo mandarine-citron est ultra, ultra drôle. Brad Pitt est super. Vraiment, vraiment, je m'attendais pas à ça non plus, tu vois. Moi, je m'attendais vraiment juste à un film d'action, voilà, classique, lambda. Je dis, voilà, dans l'avion, ce sera parfait, je passe un bon moment et puis ce sera tout. Et en fait, non, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
Très bien. Eh bien, contente d'avoir ton retour parce que je m'attendais pas à ça. bon, alors, pourquoi on parlait de Tarantino? Parce que il se trouve que je me lance dans un petit rattrapage intensif de pain perdu tarantinesque, puisque dans quelques semaines, dans pas longtemps du tout, une dizaine de jours, je vais voir Quentin au Grand Rex. Voilà, pour une soirée spéciale. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Mais le fait est que aller voir Quentin qui parle de sa filmo et de ses inspirations sans avoir vu la moitié de sa filmo, ça craint un peu. Donc, il va falloir vite que je me rattrape tout ça. Et j'ai pas vu ses premiers films, en fait. J'ai tout vu à partir de Inglourious Basterds, mais j'ai pas vu les précédents. Donc, j'ai rattrapé aujourd'hui même Reservoir Dogs. Voilà, je commence par le premier. Et c'est exactement ce à quoi je m'attendais, donc ça m'a bien plu. Les dialogues sont du pur Tarantino, et ouais, j'avais pas vu le film, mais j'avais l'impression de l'avoir vu tellement j'avais vu d'extraits, tellement j'avais entendu parler de ce film. Donc j'ai eu aucune surprise, mais c'était chouette. Voilà.
Il est sur Prime, hein, c'est ça, si je me trompe pas.
Ouais, celui-là, il est sur Prime, ouais. Mais je vais enchaîner probablement, forcément, avec Pulp Fiction, que je n'ai jamais vu, qui lui est sur Netflix. Et voilà, je vais essayer de voir Jackie Brown, qui lui est sur Prime aussi.
Ouais.
Je sais pas si je vais avoir le temps de tout voir. Et Kill Bill, bah.
Bon, tu les as déjà vus, les Kill Bill.
Non,
t'as jamais vu Kill Bill.
Je te dis, moi, j'ai vu juste Inglourious Basterds.
Ah oui, c'est vrai.
Attends.
Oui, ça, c'est choquant. Mais attends, je les ai pas en DVD, moi. Ah non, je crois que c'est chez ma mère.
Après, c'est pas impossible que je trouve Kill Bill en DVD.
À la médiathèque.
Oui, c'est ça.
Ah oui, faut que tu vois Kill Bill au moins avant d'y aller, c'est sûr, c'est sûr.
Bah, je pense, ouais. People Fiction. Enfin, je pense que c'est les deux qu'il faut absolument que je vois, mais. Donc bonne raison pour rattraper ma lacune cinématographique que cet événement.
Ah ouais, moi je suis deg de pas pouvoir venir avec toi parce que c'est vrai que j'adore Quentin Tarantino et moi j'ai adoré Kill Bill, j'ai adoré Pulp Fiction, j'ai adoré Reservoir Dogs que j'ai vu sur le tard. C'est Thibaut qui m'avait un peu forcé pour essayer de m'avoir, il me mettait la musique Stuck in the Middle with You, tu sais, en boucle.
Oh non, mais c'est la pire scène, c'est la pire scène.
Mais la musique est cool, donc tu mais fermes les yeux et t'écoutes la musique, c'est très bien. Mais j'avais beaucoup aimé ce film, donc je suis contente que tu l'aies vu. Et il faut que tu regardes Kill Bill, oui. Et Pulp Fiction.
Tout à fait, c'est au programme.
Le dernier film, mon dernier pain perdu, que j'ai vu également dans l'avion, mais que j'ai pas spécialement beaucoup aimé, donc si vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave, je vais être très rapide. Il s'agit de Le Père de la Mariée, mais alors pas la version de 93 ou quelque chose comme ça avec Steve Martin, je crois que c'était la version de 2022. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait une version en 2022 avec mince, comment il s'appelle l'acteur connu là, Andy Garcia. Voilà. Donc le principe, enfin le concept du film, je sais pas si l'ancien, je crois que si, parce que je crois que c'est le troisième remake hein, du Père de la Mariée, donc je pense que le scénario doit être globalement le même, mais c'est les parents d'une fille qui veulent divorcer, et le jour ils veulent l'annoncer, leur fille leur annonce qu'elle va se marier, donc du coup ils lui disent pas, et puis voilà, le père va s'immiscer un petit peu dans, enfin s'immiscer. Non, mais il va regarder un peu d'un œil très paternaliste et un peu macho la relation de sa fille avec son nouveau gendre. Voilà, en gros. Ça fait vraiment très comédie des années 90-2000. Voilà, très classique. La petite différence, c'est qu'on sent qu'on est en 2022, dans le sens où dès que le père fait une remarque un peu trop macho, un peu trop patriarcale, la fille le rembarre. Ils veulent partir tous les deux à l'étranger, c'est pas, contrairement à ce que le père pense, machin, c'est pas le mec qui force la fille, c'est la fille qui a trouvé un poste là-bas et le mec qui quitte son boulot pour l'accompagner, enfin. Ils ont essayé de faire quelque chose, entre guillemets, un peu plus féministe. Après, du coup, ils ont essayé de faire ça plus inclusif, donc on a une famille de latinos, mais c'est bourré de clichés. Donc, tu comprends qu'ils ont repris un vieux film et ils ont essayé de le moderniser. Que c'est pas catastrophique, mais que ça marche pas, quoi. Enfin, c'est pas intéressant. Donc, dans l'avion, c'était parfait, voilà. Je me suis à moitié endormie devant. Je regardais ça en mangeant, en écoutant d'une oreille, en parlant d'une autre. Enfin, ouais, vous avez compris l'idée, quoi. Mais,
parles avec les oreilles.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est rien de captivant, rien de foufou. Et franchement, passez votre chemin, quoi. Mais, voilà.
Très bien. Pour finir, c'est pain perdu, c'est un pain qui aurait pu rester perdu.
C'est ça. Ouais, mais il était là, écoute. Je vais aller, allons-y, quoi. Pourquoi pas?
Très bien. Donc, il est temps maintenant de passer aux séries. Putain, on a vu beaucoup de films, hein, ce mois-ci, ouais. N'empêche. Hein.
Et je pense que le mois prochain aussi, parce que j'en ai encore plein dans ma liste, là. Il faut absolument que j'aille au cinéma. Bientôt.
Ouais, il y a pas mal de choses en plus qui sortent et qui vont sortir encore, donc c'est encore un printemps chargé. Mais il est temps de passer donc aux séries, en commençant par parler de ce qu'on a vu sur Netflix. Alors, moi, je n'ai vu qu'une série sur Netflix, mais qui m'a bien occupée, là, ces deux derniers mois, puisque j'ai regardé les trois saisons de la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, j'en avais marre de... J'avais l'impression que c'était une de mes lacunes de pop culture. J'en avais marre de pas comprendre les références à Avatar, de pas pouvoir regarder les vidéos de mes youtubeurs préférés de fantasy qui décryptent Avatar, voilà. Donc, je dis, bon, si tout le monde parle d'Avatar et que tout le monde chez les geeks adore Avatar, faut que je le regarde. Donc je l'ai enfin regardé. Et alors je m'attendais pas que ce soit une série autant pour les enfants entre guillemets. C'est quand même oui, c'est un dessin animé pour les enfants. Mais malgré ce ton voilà plutôt enfantin, j'ai vraiment beaucoup aimé et surtout la troisième saison, elle est vraiment excellente. L'univers est hyper développé, l'histoire est cool, c'est vraiment de la fantasy voilà d'inspiration asiatique. Donc je sais pas si je raconte vite fait l'histoire, mais bon pour vous poser le cadre d'Avatar, pour vous donner envie si vous êtes jamais lancé dedans. On est dans un monde où il y a plusieurs royaumes et en fait le royaume du feu a envahi le reste des royaumes, donc a exterminé le royaume de l'air et a envahi le royaume de l'eau et de la terre et en fait il y aurait qu'une personne qui aurait pu arrêter le royaume du feu dans sa grande invasion, c'est l'Avatar qui est le seul qui maîtrise tous les éléments, puisque sinon il y a ce qu'ils appellent des benders, je sais pas comment on dit en français, je regarde en anglais, mais il y a des espèces de sorciers, on va dire, qui maîtrisent les éléments dans ces différents royaumes, et il y a l'Avatar qui maîtrise tous les éléments. Mais il a disparu au moment de l'invasion du royaume du feu, et il réapparaît 100 ans plus tard. En fait, c'est un garçon qui était congelé dans un glaçon, qui s'est congelé lui-même dans un gros iceberg et qui se décongèle, voilà, 100 ans plus tard et qui tombe, voilà, c'est deux gamins du royaume de l'eau qui tombent sur lui et voilà, ensemble, ils vont essayer de faire que l'Avatar retrouve tous ses pouvoirs, on va dire, et soit assez fort pour aller renverser le royaume du feu. Voilà. Et c'est trop cool. L'histoire est trop bien. Les personnages sont super. Il y a des beaux arcs de personnages. Voilà. Il y a un beau message. Donc, c'est bien une série pour enfants dans le sens où il y a des beaux messages. Tu vois, il y a vraiment quelque chose... on sent que c'est une volonté un peu éducative, entre guillemets, de transmettre des bonnes valeurs. Mais dans le bon sens, quoi. Ça pousse vraiment bien les choses et l'univers est cool. Donc, je comprends la hype autour de ce dessin animé. D'ailleurs, c'est Dave Filoni qui est derrière ce dessin animé à la base.
Ah ouais, ouais? Je savais pas du tout.
Ouais, ouais. Enfin, pas tout seul, mais en tout cas, il a bossé sur Avatar avant d'aller vers The Clone Wars. Donc voilà, pour vous donner une idée de la qualité d'écriture, voilà, c'est de ce niveau-là. Et il y a une autre série d'animation plus récente qui a été qui est aussi sur Netflix, c'est Korra. Donc qui se passe après, donc je vais regarder aussi la légende de Korra. Mmh. Et il y a eu une annonce il y a pas très longtemps d'un parce qu'il y a eu un film de Night Shyamalan live action qui paraît être une bouse de Avatar, peut-être que je le verrai un
jamais
jour
vu.
Ou pas, mais effectivement j'ai regardé, ça a l'air très très cheap, mais ils vont en refaire une série ou un film, je sais pas, Netflix en live action d'Avatar, donc maintenant c'est bon, je suis prête pour un nouveau remake et pour le juger sévèrement. Voilà.
Moi, Avatar. J'ai toujours vu que quelques épisodes à droite à gauche que j'aimais beaucoup et je m'étais dit qu'un jour je ferais, mais manque de temps. C'est trop, trop, trop gros. Trop d'épisodes.
Ouais, trois saisons à chaque fois, 20 épisodes, même si c'est des épisodes de 20 minutes, bon, bah, ça prend un peu de temps.
Ouais, quoi. Faut s'y mettre, quoi. Alors, moi, j'ai vu beaucoup de choses sur Netflix. Déjà, j'ai vu la saison 3 de Outer Banks. Qui est une série de Netflix, saison 3, hein, saison 4 de prévu, qui est une saison un peu, on va dire, sur des chasseurs de trésors. Et alors, ce que j'aime par-dessus tout dans cette série, je pense que c'est ce que je regarde, enfin, c'est vraiment pourquoi je me suis lancée au départ, c'est la colorimétrie. En fait, on a une ambiance Golden Sun, là, vous voyez, tout le temps. Et du coup, c'est hyper beau visuellement. T'as l'impression qu'il y a eu un filtre. Et du coup, c'est très joli. Enfin, vraiment, je trouve que les couleurs sont magnifiques. Après, je dirais pas que je la conseille pas vraiment, parce que ça reste la série un peu pour ados, jeunes adultes, avec des histoires d'amour, effectivement cette recherche de chasse au trésor, mais qui est pas non plus, il y a pas des gros bouleversements, il y a pas des, t'es pas en mode, oh, non, c'est pas vrai, comment ils vont trouver ça, comment ils vont faire ça, tu suis un petit peu, voilà, c'est très linéaire. Je trouve que ça se répète un petit peu. Là, la saison 3 se répète, enfin, je commençais à en avoir marre que ce soit les mêmes méchants qui, ah oh, non, il est pas mort, en fait, il revient, ah oh, on pense qu'il est gentil, mais en fait, non, il est méchant. Ça commençait à faire beaucoup. Mais j'ai quand même passé un très bon moment devant, et puis j'ai binge-watché la saison 3, voilà, à fond, puis il y a des histoires d'amour, donc voilà, hein, on me connaît. Donc moi, j'ai adoré, même si effectivement, la saison 3 commence à tourner en rond. Le teaser de la saison 4 donne un peu plus envie, parce qu'on part dans une autre histoire complètement, où effectivement, voilà, on a bien vu que l'histoire chasse au trésor, ça marche bien, ils sont doués, et donc on va les embaucher pour une chasse au trésor spécifique. Donc j'ai l'impression que voilà, on va s'éloigner de cette quête-là principale qui a mis 3 saisons à se terminer pour partir sur autre chose. Donc j'ai un peu hâte de voir quand même ce qui va se faire après. Et voilà, sinon c'est sympathique mais pas non plus extraordinaire. Mais c'est marrant parce qu'on a eu ce débat là sur le Discord juste avant qu'on enregistre, où Cédric, petit coucou Cédric, disait qu'est-ce que t'appelles des bons contenus, quand tu dis que moi je disais que Netflix produisait plus de quantité que de qualité. Bah typiquement ça, je pense qu'il y a beaucoup de public qui regarde, effectivement on regarde avec le plaisir, comme Emily in Paris, tu regardes ton plaisir coupable, c'est fun, mais 2 mois après, t'as totalement fini. Il y a pas de prise de risque, il y a pas de réelle qualité dans la réalisation ou dans le scénario. Mais effectivement, ça marche parce que bah t'as certains codes qui sont respectés, hein, comme les histoires d'amour, le cliffhanger à la fin de l'épisode qui fait que t'as envie d'aller regarder le suivant, etc. Mais pour moi, c'est décevant que Netflix des fois fasse que ce genre de série là. Et j'aimerais bien qu'ils se concentrent peut-être sur des séries. Ouais, de meilleure qualité comme Arcane, hein, typiquement, même si c'est pas le studio Netflix, mais des séries comme Arcane, qu'ils en fassent, voilà, une de temps en temps, qui soit au top, plutôt que plein de séries comme ça, où au bout d'un moment, tu sais plus laquelle t'as vu, laquelle t'as pas vu, même si, encore une fois, je suis le public cible et je passe du bon temps devant, hein.
Ouais, non, ouais. Non, mais c'est ce qui a un peu lancé notre débat, mais oui, c'est... Moi, je trouve que typiquement, moi, c'est, ouais, je suis pas le public pour ce type de série, je pense. Mais, du coup, moi, je les vois même pas, hein, passer ces séries-là, hein, parce que Netflix a compris, hein, que j'étais pas le public pour ces séries-là.
Ouais, alors que moi, on me les propose vraiment, mais toutes à chaque fois.
Mais du coup, par contre, je trouve ça fou que, voilà, une série comme celle-là, ouais, ils en sont à saison 3, il va y avoir une saison 4 et tout, et que d'autres séries, sont annulés à tour de bras, et comme par hasard, voilà, c'est les séries qui prennent un peu plus de risques dans les histoires, dans les représentations, etc. Donc voilà.
C'est dommage.
Alors je vais passer maintenant dans ma catégorie les dramas coréens de Charline. Voilà, j'ai une grande passion pour ça. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais je deviens très vite accro. Et effectivement, là, j'en ai enchaîné quelques-uns. J'en ai enchaîné 4 récemment. Donc voilà, je tenais absolument à en parler parce que... Alors, il y en a qu'on peut vraiment mettre dans la catégorie drama coréen tel que vous les imaginez. Et effectivement, si c'est pas votre style, je vous les déconseille. Et puis, il y en a d'autres où, au contraire, je les recommande également pour ceux qui ne sont pas du tout adeptes de ce style parce que c'est pas vraiment des dramas, c'est juste des séries coréennes. Et vous allez comprendre un peu mieux voilà quand je vais expliquer. Donc pour commencer, la catégorie 100% drama, c'est-à-dire on attend 15 épisodes pour se tenir la main. Donc j'en ai 2 dont je vais vous parler. Le premier, c'est True Beauty. Alors je l'ai vu au Vietnam, parce que quand je suis arrivée au Vietnam, j'ai ouvert Netflix, on me l'a proposé direct, parce qu'il faisait partie du top 10 des séries les plus vues au Vietnam, et donc malheureusement, il n'est pas en France. Mais si jamais vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, il est sur d'autres plateformes spéciales, drama, etc. Voilà. Et True Beauty, en fait, moi je l'ai connu, donc je fais un petit coucou à mon frère, qui m'a offert le webtoon en version papier, et du coup je suis foncée sur Webtoon pour lire la suite. Et alors en fait ça parle d'une fille qui se fait harceler au collège, donc ça parle beaucoup, au final les deux là qui sont très drama parlent du harcèlement scolaire, et même si on a vraiment un style assez léger, avec de l'histoire vraiment romance à l'eau de rose. Ça parle quand même de sujets assez profonds et pour ça c'est bien. Donc les deux parlent de harcèlement scolaire. Là donc elle faisait harceler parce qu'elle était pas très jolie et quand elle va changer d'établissement elle va apprendre à se maquiller et elle va cacher son physique derrière du maquillage. Donc que ce soit ses boutons d'acné avec du fond de teint, que ce soit ses yeux trop bridés en les agrandissant en mettant c'est un truc un peu bizarre, j'ai pas trop compris mais ils en parlaient déjà dans le manga. En tout cas elle réussit à s'agrandir les yeux, à se mettre des lentilles de couleur plus claire, etc., etc. Et donc elle a en fait un peu cette double identité et en fait elle va se rendre compte de voilà comment est-ce qu'on est vraiment plus heureuse comme ça, est-ce qu'on n'a pas les mêmes soucis amoureux etc que quand elle se trouvait pas jolie. Et finalement elle va y avoir tout un triangle amoureux avec deux garçons qui connaissent dès le début sa double identité. Donc c'est ça aussi la belle morale de l'histoire, c'est qu'elle a pas besoin d'être jolie pour se faire aimer, enfin voilà. Mais en tout cas voilà, la série finit, il y a quand même pas mal d'épisodes je crois, environ une quinzaine, un peu plus, mais en tout cas j'ai trouvé ça très sympa et très effectivement fleur bleue adolescent. On met 10 épisodes à se tenir la main, 15 à se faire un bisou, mais c'est ce que j'aime aussi dans les dramas coréens, cette espèce de pudeur dans les relations. Et le deuxième, il s'agit de My ID is Gangnam Beauty. Donc c'est un peu sur le même principe, pareil, une jeune fille qui se faisait harceler au collège parce qu'elle n'était pas très jolie. Et alors en Corée, beaucoup passent par la case chirurgie esthétique, et du coup c'est ce qu'elle fait. Et elle va se faire entièrement le visage au point qu'elle sera méconnaissable. Et puis arrivée à la fac, elle a juste sa meilleure amie qui sait ce qu'elle a, par quoi elle est passée et qui la connaît. Et elle va essayer du coup de enfin se faire des amis, d'être heureuse. Et en fait, elle va se rendre compte aussi que bah, voilà, la beauté ne fait pas tout non plus. Et puis, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est toute cette réflexion du voilà, avant je me trouvais moche, maintenant je ne suis plus moche, mais je ne suis plus jolie parce que j'ai pas l'impression que c'est moi non plus. C'est un visage qu'on m'a collé, mais j'ai rien fait pour avoir ce visage-là. Enfin, c'est pas spécialement moi. Et pareil, le fait qu'elle se voit pas se sentir beaucoup plus heureuse comme ça. Et que voilà, il va y avoir une magnifique histoire d'amour avec le même acteur hein, que dans True Beauty, une très belle histoire d'amour très mignonne avec justement ce garçon qui va tomber amoureux d'elle, mais pas pour son physique. Voilà. Donc ça c'est les deux full drama. Et puis ensuite j'en ai deux que j'ai vu récemment que j'ai adoré ou que vraiment je le catégoriserai pas dans cette catégorie là. Ma phrase n'avait aucun sens, mais il s'agit de Itaewon Class, qui est une série donc coréenne aussi, où là, pour l'instant, alors je n'ai pas fini encore, hein, lui c'est le seul que je n'ai pas terminé, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'histoire d'amour, alors je crois qu'il y en aura une petite à un moment, mais c'est pas vraiment le sujet principal. Ici, ça démarre assez de manière très dramatique, puisque on a un garçon qui son papa décède. Alors le premier épisode d'ailleurs est hyper triste parce que bon, je spoil le premier épisode, hein, mais en fait comme la série n'a pas du tout accès là-dessus, faut passer le premier pour vraiment rentrer dans la série et dans l'histoire. Donc après le décès de son papa, il va se passer des choses qui va faire qu'il va aller en prison, et quand il va ressortir, il va essayer d'ouvrir son propre resto dans le quartier d'Itaewon à Séoul. Et voilà, c'est vraiment très 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 bien, c'est très sympa, je pense vraiment que ça peut te plaire Marjo. Moi je sais que, pour la petite anecdote, c'est un collègue de boulot qui me l'a conseillé, et effectivement je lui ai dit mais c'est génial, j'ai adoré, donc je l'ai conseillé à ma maman qui regarde beaucoup de séries, et beaucoup sur Netflix aussi, et quelques semaines plus tard, elle m'appelle, elle me dit « Oh Charline, j'ai une série à te conseiller, c'est génial, c'est Itaewon Class, faut absolument que tu regardes ». Puis là, je dis là, mais rappelle-moi comment t'as connu cette série, tu te moques vraiment du monde, quoi. Et du coup, elle me dit, mais tu l'as fini au moins? Je dis, non. Bon, bah voilà, alors je te conseille de la finir. Je dis, mais n'importe quoi. Mais voilà, c'est très drôle. En tout cas, voilà, elle a fait... les personnes qui l'ont regardé ont tout apprécié, donc je le conseille fortement. Et la dernière, alors c'est très marrant parce que, vu le titre, je m'attendais vraiment au full drama, histoire d'amour, voilà, c'est Love to Hate You. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment un drama en mode un peu féministe moderne, puisque dans les dramas, on a souvent ce côté la fille qui ne fait rien, qui attend que le garçon la touche, qui attend que le garçon l'embrasse, qui est très pudique dans ses sentiments, qui tombe amoureuse qu'une seule fois dans sa vie, et qui se marie avec. Enfin voilà, on a cette espèce de vision qui est encore un peu présente dans les pays asiatiques, hein, donc voilà, ça représente une manière de penser. Et là, en fait, justement, ça casse tous les préjugés, toute cet état d'esprit là, ça passe à la trappe. Au contraire, ça se moque un petit peu de tout ça, puisque notre héroïne, dès le premier épisode, on la voit coucher avec un garçon un coup d'un soir. Et justement, on a deux personnages qui vont se détester, elle parce qu'elle le trouve beaucoup trop misogyne, trop macho. Et puis bon, alors ça c'est, on reste quand même sur un peu un cliché dans le sens où il s'est fait martyriser par des femmes et donc voilà, c'est pour ça qu'il est comme ça. Mais c'est même pas, il se venge sur les femmes, c'est du coup il sort avec personne. C'est, il a décidé les filles, c'est terminé. Et elle qui adore se battre, qui adore la justice, qui adore prôner le girl power et qui va sortir avec des garçons qui ont l'habitude de tromper leurs femmes pour ensuite les tromper ou les larguer, enfin les humilier, voilà, et se venger. Et donc on va avoir cette petite histoire d'amour qui va se créer entre les deux alors qu'au début ils se détestent, et c'est vraiment hyper sympa, vraiment très moderne. Moi j'ai adoré, j'ai regardé tous les épisodes d'une traite quasiment, et j'ai trouvé que ça changeait de ce qui était fait d'habitude, et donc je le conseille fortement. Voilà.
Très bien, mais je retiens quand même Itaewon Class. Je pense que c'est
ouais, lui. Je pense que c'est lui qui va te plaire.
Ça me tente. Les autres, je sais pas.
Mais... bah, Love to Hate You, je pense que ça peut te plaire.
Peut-être. Donc, bah, c'est déjà pas mal sur Netflix.
Ouais.
Donc, on va passer à Disney Plus, bah, très vite, puisque moi, j'ai que regardé The Bad Batch saison 2, qui n'est pas encore finie. Donc, peut-être que je vais attendre le mois prochain pour vous dire ce que j'en pense définitivement. Mais ouais, là, il y a eu du bon depuis le mois dernier. Il y a eu du très bon. Donc, suite, j'attends d'avoir enfin la fin pour avoir une vue d'ensemble. Mais ouais, je kiffe toujours me regarder mes petits épisodes de Bad Batch. Je sais jamais sur quoi je vais tomber d'une semaine sur l'autre. Mais ouais, c'est...
Il y a combien d'épisodes de prévus?
Je crois qu'on est pas loin de la fin, là. 16, je sais plus. Tout
d'accord,
comme ça.
Okay. Ok. Non, je me suis toujours pas lancée dedans. Mais, tu sais, j'ai un peu, enfin, ce que je l'ai déjà dit, mais j'ai un peu de mal sur les épisodes mensuels si je me lance pas tout de suite.
Hebdomadaire.
Et comme ils ont comme, ouais, hebdomadaire, pardon. Si je me lance pas directement et que du coup j'ai un rythme, à partir du moment où je commence à avoir du retard, c'est difficile. Et comme là, j'étais au Vietnam quand ils sont sortis, bah, je suis arrivée, j'étais déjà en retard et j'ai pas repris quoi. Mais comme Mandalorian.
Bah il y a 16 ouais 16 épisodes. Ah oui, bah si, bah okay. Je regarde The Mandalorian aussi, mais bon, il y a que 3 épisodes pour l'instant, donc
on en parlera plus tard. Ben moi j'ai vu en entier Extraordinary, qui est une série british, et le début de How I Met Your Father, puisque ça sort tous les mercredis, mais que là j'étais dans les temps. Donc j'ai commencé à regarder. Mais on en est déjà à pas mal d'épisodes, enfin à pas mal de temps d'épisodes, donc je pense que j'en parlerai dans le prochain épisode d'Il était un plus, puisqu'on va faire un petit zapping aussi spécial sur Disney+. Et potentiellement, si quand j'aurai fini à How I Met Your Mother, j'en parlerai dans le prochain Pop-T. Extraordinary, je suis pas hyper méga convaincue, donc ça sert à rien que j'en parle deux fois, je pense.
Et on va finir donc sur Prime, où là j'ai passé beaucoup de temps, puisque je me suis enfin fait l'entièreté de la saison 6 de This Is Us, qui était la dernière saison d'une de mes séries. C'est une série que j'adore, et du coup j'avais vraiment, mais en même temps qui me fait beaucoup pleurer, et donc à chaque fois This Is Us, c'est rare que je les ai suivis pile au moment où ça sortait, parce que j'attendais vraiment d'être dans le bon mood pour la regarder. Et là la dernière saison, j'avais vraiment vraiment du mal à me décider à la regarder, parce que j'étais pas prête à faire mon deuil de dire que ça allait être fini, que j'allais plus revoir ces personnages là et donc là c'était le bon moment, c'était un moment où j'avais envie de beaucoup pleurer, donc voilà, j'ai passé mon mois à pleurer. de je sais pas, bon, parce que c'est long en plus, This Is Us, il y a pas mal d'épisodes dans une saison, donc ça m'a pris quand même un petit peu de temps, quelques semaines, mais du coup ouais, je les ai bien enchaînés, j'ai énormément pleuré. Cette dernière saison est super, peut-être juste la toute fin, dernier épisode, enfin je m'attendais à ce que le dernier épisode me détruise complètement. Au final, pas tant que ça, mais finalement, c'est pas mal. En fait, ça pétait l'épisode le plus triste de la saison. Donc, enfin, le plus triste. C'est pas que triste, This Is Us. En fait, c'est ça qui est difficile à décrire pour ceux qui ne sont jamais regardé la série. Ils disent, mais pourquoi les gens s'infligent This Is Us si ça fait autant pleurer? C'est que c'est... À chaque fois, en fait, on pleure, mais pour des bonnes raisons. Enfin, ça fait du bien en même temps. C'est feel good en même temps qu'on pleure. Je sais pas si c'est un concept. C'est un concept. Oui, c'est... Mais, non, mais en fait, on voit, bah, voilà, c'est typiquement une tranche de vie, quoi. Donc, on voit toute la vie. Et puis, en plus, de manière un peu, tu sais, c'est pas linéaire. Donc, en gros, de temps en temps, on voit ce qui va se passer dans le futur. Et de temps en temps, on voit ce qui se passe dans le passé. Et tout se mêle. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. J'adore les arcs. Enfin, j'aime bien la manière dont ils ont clôturé les arcs des différents personnages. C'est très satisfaisant. Donc voilà, en même temps que j'étais en train de dire non, mais c'est pas possible que ce soit fini, je me disais non, mais c'est fini certes, mais cette série, tu pourras te refaire des binges intégrales des 6 saisons quand tu veux. Voilà, ils seront toujours là. Et donc ouais, je suis contente d'être allée au bout, mais voilà, This Is Us, c'est, je pense que ça restera une de mes séries préférées de tous les temps.
Moi, j'ai vu la saison 1 quand elle est sortie directement, donc il y a 6 ans, plus 7 que ans, ça, en plus, parce qu'ils ont mis du temps des fois entre eux. Ouais. Donc j'ai vu, voilà, au tout début, parce que je suis fan de Milo Ventimiglia, et donc, dès qu'il sort quelque chose, je regardais.
Ah, puis là, c'est sa série. Enfin, je veux dire, c'est qui est au centre de tout dans cette série.
Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup trop triste et donc j'ai arrêté. Ouais. Et je pense que maintenant, je suis un peu plus... je suis mieux dans ma tête qu'il y a 10 ans, quoi. Je pense que je pourrais la regarder plus facilement qu'à l'époque. Et il faut vraiment que je rattrape mon retard parce que je sais que toi, voilà, c'est tes séries coup de cœur. Et Clémence aussi, c'est dans ses séries coup de cœur, elle en parle beaucoup. Donc, je sais qu'il faut que je la regarde. C'est sûr, il faut que je me replonge dedans. Et juste petite mention, parce que TF1 a fait une version française.
Ah oui, que je n'ai pas regardée. J'ai oublié ça.
Si, si. Et en fait, ma maman a regardé et elle a beaucoup aimé. Alors, elle a beaucoup aimé This Is Us, hein, vraiment. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était un peu dans un style quand même différent, hein, même si c'est la série version française. Et en fait, ce qu'elle a beaucoup aimé, c'est toutes les années 70, là, dans les flashbacks, qui étaient hyper bien faites. Du coup, comme elle était ado dans les années 70, bah, elle avait vraiment... elle s'y retrouvait, quoi. Et c'est ça qui lui a beaucoup plu.
Ouais. Ouais, non, bah, j'imagine que, ouais, même This Is Us, je pense, pour un public américain, c'est différent parce que... Mm-mm. Ça doit parler énormément, voilà, parce que les reconstitutions des différentes époques sont très très crédibles, quoi. Donc, puis ça parle aussi, en même temps que ça parle de l'histoire des familles, de temps en temps, t'as des petits trucs en parallèle en toile de fond, quoi, de ce qui se passe dans la société, etc. Donc, c'est vraiment. Enfin, je pense que c'est une série qui peut vite devenir très personnelle pour plein de monde, que ce soit par rapport à toutes les histoires que traversent les personnages. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui peut arriver, ça arrive, en fait, dans cette série. C'est assez long pour qu'ils traversent tout. Donc, les divorces pour plein de raisons différentes, les deuils, évidemment, différentes situations entre des enfants et leurs parents. Il y a plein de... Ouais, bon, des moments de dépression, des moments... Enfin, il y a tout. Il y a tout dans cette série. Donc, c'est This Is Us, quoi. Et c'est fini. Voilà.
Alors, le dernier contenu que j'ai regardé, et il s'agit d'un contenu sur Prime, et il s'agit de LOL qui ressort, saison 3. C'est le concept, parce que c'est marrant, parce que je pensais que tout le monde avait entendu parler du concept, et sur
mais
Discord.
Non, j'ai jamais entendu parler, moi.
Mais c'est drôle. Et sur le Discord, Cédric nous disait, mais ça parle de quoi? Alors, en fait, c'est pas du tout, il parle de saison 1, saison 2, saison 3, mais c'est pas du tout une série, hein, en fait. C'est une genre de télé-réalité, entre guillemets, qui va se dérouler sur quelques épisodes, en fait, qui se passe sur 6 heures. Où dans une pièce, on enferme des comédiens et des humoristes, et leur objectif, c'est de se faire rire les uns les autres, mais de eux de ne pas rigoler. Donc, ils vont se faire des blagues, ils vont faire des sketchs, ils vont faire plein de choses. Du coup, nous, le public, on rigole, et eux, l'objectif, c'est vraiment de pas rire, et le premier qui rigole se prend un carton jaune, et s'il rigole une deuxième fois, carton rouge, il est éliminé, jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. Et en fait, chaque saison correspond du coup à une émission et avec des invités différents. Donc je voulais juste dire un petit peu les invités parce que Cédric demandait « Oui, est-ce qu'on commence par la saison 1 et on enchaîne ou on peut commencer direct par la 3 ?» En fait, c'est totalement indépendant et faut regarder vraiment les humoristes qui peuvent vous plaire. Moi, je sais que la 1, j'avais un peu moins aimé parce que Au début, c'était un peu malaisant. Vous savez, quand on fait une blague mais que personne rigole, des fois, du coup, ça se fait pas rire spécialement. C'est quand les gens rigolent que ça nous fait rire. Et donc, le fait que personne rigole, j'étais là, je dois rire, c'est drôle, c'est pas drôle. Tu sais, ça décontenance un petit peu. Mmh. Et il y avait beaucoup d'humoristes que je connaissais pas dans la saison 1, donc j'avais un peu plus de mal. Mais ça m'avait quand même plu, le concept. Et la saison 2, j'ai adoré. Alors, j'ai surtout parlé de la saison 2 et la saison 3. La saison 2, il y avait, voilà, Eric et Ramzy, Audrey Floreau, Gérard Darmon, Ahmed Silla, Just Read, Payano Tispasco, Alice David, Camille Lelouch. Et du coup, j'ai beaucoup rigolé sur cette saison-là. Alors la première, il y avait quand même du level, hein. Il y avait Gérard Jugnot, il y avait j'arrive jamais à prononcer son nom, mais Kylian Kojandi, Alexandra Lamy, Inès Reg. Enfin voilà, c'était plus axé vraiment sur des humoristes. Et la saison 3, je suis totalement la cible parce que c'est en majeure partie le casting, la flamme, le flambeau. Family Business, etc. Donc il y a Jonathan Cohen, Leila Becky, Gad Elmaleh, Virginie Fira, François Damien, Adèle Exarchopoulos, Paul Mirabel, Géraldine Nakache, Laura Felpin et Pierre Nignier, que j'adore. Nignier. Ça me perturbe fort. Et voilà, donc je trouve qu'en plus la saison 2 et la saison 3 sont améliorées à ce niveau-là, et puis comme en fait maintenant on voit plus, quand les gens se font éliminer, on les voit vraiment rire, etc., donc tu rentres vraiment dans le mood aussi, et puis ils font, là typiquement dans la saison 3, ce qui était hyper drôle, c'est de les voir se retenir de rire, ils font des têtes, t'es plié en deux, donc j'ai beaucoup aimé cette saison 3, voilà, plus encore que les autres, et je le conseille. Une saison 4 a été annoncée. Alors, on n'a pas encore le casting, à voir qui vont mettre. Et ils ont annoncé aussi un espèce de spin-off où ça va pas être que de l'humour, mais avec un peu aussi d'horreur, et ils devront pas crier non plus. Enfin, voilà, je pense que ça peut être marrant également.
Ah, bah ça, je pense que je vais tenter peut-être directement avec la saison 3, d'ailleurs, parce que j'aime bien le casting de la saison 3, mais ouais.
ça
semble pas mal.
Ils ont fait quand même une grosse promo cette année. J'ai vu pas mal d'affiches dans Paris. Et puis ils ont fait une avant-première dans un cinéma où il fallait que ceux qui regardaient, en fait, ils avaient une caméra quelque chose comme ça devant eux, et s'ils rigolaient, ils sortaient de la salle quand ils ont vu l'avant-première. Donc je trouvais, enfin, ouais, le concept était marrant. Ils ont fait vraiment une grosse promo. Puis bon, bah Pierre Niney, tout ça, à chaque fois qu'il fait partie d'un film sur Insta, promo à fond, quoi. Voilà, il joue vraiment le jeu, lui. Donc voilà, tous ils ont tweeté, posté des photos et tout de leur passage, et il y a quand même quelques petites phrases cultes bien drôles. Donc ouais, je pense que je le conseille.
Très bien, très bien. Bon, bah merci pour la découverte.
De rien.
Et bon, sinon sur Prime, je mentionne, parce que sinon les gens vont dire mais pourquoi elle a pas parlé de ça ? Parce que j'ai pas fini Carnival Row saison 2, évidemment. J'étais sur le pont dès que c'est sorti, mais j'ai pas eu le temps de tout voir. Et en fait, Carnival Row est sorti en même temps que je me suis décidée à finalement me mettre dans This Is Us. Je pouvais pas faire les deux en même temps, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai mis en pause Carnival Row. J'ai vu que la première partie de la saison, enfin, j'ai vu la moitié. Il y a que 8 épisodes, mais bon, j'ai vu que 3 ou 4 épisodes. Donc je n'en parlerai que quand je me serai remis dedans et que j'aurai fini et voilà, ce sera probablement le mois prochain. Mais ça y est, tout est sorti, donc je peux parce qu'ils sont sortis deux par deux là, c'est les épisodes.
D'accord, pas mal.
Voilà.
Il y a quand même aussi une autre série qu'on n'a pas mentionnée sur Prime.
Ah bah oui, elle parle
quand même.
Et qui est finie, donc on aurait pu en parler.
Qui, je pense, moi, sera dans ma liste pour le Popcorn d'or 2023. C'est sûr et certain. Il s'agit de The Last of Us.
Évidemment. J'ai vu le dernier là hier.
Ouais. Alors.
Voilà. J'ai dit c'est pas mal, peut-être qu'on fasse un épisode pour en parler, parce qu'il faut absolument qu'on spoil pour parler de The Last of Us. On peut pas.
Oui.
Voilà. Donc oui, il faut qu'on en parle.
C'est sûr, ça viendra. On ne sait pas quand, mais ça viendra, c'est obligé.
Voilà. Mais oui, le dernier épisode m'a laissé. Ouais, j'étais genre, je suis censée enregistrer un podcast dans une demi-heure, comment je vais faire? j'ai réussi. Mais ouais, c'est... Voilà.
Voilà. Bon, bah écoute, on va pouvoir s'arrêter là. C'est quand même une bonne liste, hein. Je pense que... Ouais. En fait, on se rend compte qu'on regarde beaucoup de choses.
Oui.
Où est notre temps libre?
Mais là, en ce moment, on regarde beaucoup de choses. Là, je me suis dit, au cours du mois, je vais peut-être ralentir le mois prochain pour me remettre peut-être à faire d'autres choses, genre lire des livres ou aller me balader ou profiter du soleil printanier. Mais ouais.
Alors,
mais
moi, pour ma défense, que ce soit LOL qui rit, sort ou les dramas coréens dans le métro, c'est parfait. Voilà, donc j'ai le choix.
Je regarde rien dans le métro, moi je lis.
Bah oui, moi j'ai 2 heures de métro. En fait, au début, je lisais.
Mais que 2 jours dans la... 3 jours dans la... Bah, après, j'ai tout le train aussi. Mais pareil, oui. Je regarde pas de série dans le train.
Ah, moi aussi, parce qu'en fait, avant je lisais. Et en fait, j'arrive pas à lire en écoutant de la musique. J'arrive pas à me concentrer, non. Et du coup, il y a trop de bruit et trop de... Tu sais, j'ai quand même un peu des troubles de l'attention parfois. Et donc, dans le métro, il y a trop de choses qui se passent autour de moi pour que j'arrive à me concentrer dans mon livre. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Et donc, du coup, les séries, je mets mes écouteurs avec réduction de bruit. Donc, je suis dans ma bulle, j'entends rien du tout, à part ma série. Donc, c'est plus simple, voilà.
Ouais, je comprends. Non, moi, ça me calme de lire. Au contraire, je suis... ça me focus. Et j'arrive à faire abstraction du reste. Mais pareil. De toute façon, on a compris, je pense que tout le monde a compris que nos cerveaux marchent pas de la même manière.
Pas du tout de la même. Mais c'est ça qui est intéressant, hein, franchement. Oui. Si tout le monde fonctionnait pareil, ce serait ennuyant, quoi.
Tout à fait.
Bon. En tout cas, voilà. Il y aura peut-être moins de contenu, le mois prochain, ou dans 2 mois, du coup, si on en a pas assez le mois prochain. Mais on va continuer à essayer de maintenir ce rythme.
Oui, quitte à ce qu'on fasse là, on a fait presque 1h30, enfin, plus d'1h20.
Oui.
Mais peut-être que la prochaine fois, on fera 30 minutes. C'est possible.
C'est ce qu'on s'était dit au début.
Oui.
On s'était dit, oh, on va faire des zappings mensuels, on fera comme ça 1 demi-heure à chaque fois, ce sera très bien pour le montage. En fait, je sais pas ce qu'on fabrique, mais pas du tout. Bon, la prochaine fois, j'enlève des contenus et je les mets dans l'épisode d'après. Puis ça va se répercuter comme ça, c'est un peu sûr.
À la fin de l'année, on va avoir un épisode de 5 heures.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir débattre avec nous sur Discord et nous dire voilà s'il y a des choses que vous avez vues, pas vues, qui vous tentent ou si au contraire, il y a des contenus que vous nous conseillez à regarder. Toutes les infos sont dans la description.
Tout à fait. Et donc, on vous dit à bientôt, peut-être pour The Last of Us, peut-être pour autre chose, on verra. On fait la promesse, c'était acté.
Oui, on a dit en 2023, on arrête les promesses, on sait qu'on les tient pas.
Salut.
Salut à tous et toutes.